Bon, je souhaite que ça va être utile pour tout le monde. J'ai regardé les autres sujets qu'on va aborder et les sujets qui ne seront pas abordés, je vais passer plus de temps là-dessous. Ben, je voudrais commencer en lisant quelques extraits d'un article du journal. Donc, l'article s'appelle « Non à la législation anti-secte » et ça vient de West France vers le 13 avril. Donc, c'est une personne, René Raymond, politologue et académicien. Il dit en ce sujet, « Pour simplifier, les religions traditionnelles perdent des affiliés, les sectes les remplacent. » Ça, c'est le sujet globalement. Alors, je vais lire certaines choses qui sont dans son article, quelques-uns qui vont peut-être choquer un petit peu. En matière, je ne lis pas dans l'ordre qu'ils étaient mis dans l'article, je lis dans mon propre ordre. En matière de liberté religieuse, l'État n'est pas compétent. Il doit être neutre. Il demeure que le fait religieux a nécessairement une dimension collective et sociale. Les gens se ressemblent dans les lieux de prière. Ils transmettent leurs convictions. Là, qu'on le veuille ou non, nous sommes dans le domaine public. Ça, c'est intéressant. L'État ne peut pas fermer les yeux. La loi de séparation, dans son article premier, affirme bien que la République doit garantir la liberté des cultes. C'est donc reconnaître leur existence. Un autre passage. Il n'est pas vrai que nous vivons en système de séparation puisque nous ne sommes pas dans l'ignorance réciproque. Aussi, il dit, une liste des sectes présumées dangereuses a été dressée. Évidemment, nous sommes dans la liste, n'est-ce pas? Les Baptistes sont une secte inoffensive dans la liste. Ben, c'est comme ça. Elle est, donc en parlant de cette liste, elle est aléatoire, souvent arbitraire, et elle s'apparente à une loi des suspects. Qu'est-ce qui est secte et ne l'est pas? Il n'y a pas de définition intellectuellement satisfaisante. Une autre chose, il a dit. Ne recommencerait-on pas avec les sectes ce que l'on a fait, jadis, avec les congrégations religieuses en adoptant un régime discriminatoire? Que craint-on de la part des sectes? Des séquestrations, des escroqueries, des atteintes aux bonnes mœurs? Le code pénal suffit à les condamner. Il n'est pas nécessaire de leur consacrer un chapitre spécial. Voilà les choses. Oh, attends, ça fait... Oh, encore une chose. Faut-il alors, c'est le journal qui pose la question, faut-il alors étendre à d'autres groupes les avantages consentis aux religions reconnues? Alors là, il ne parle pas des baptistes, parce que les baptistes ne sont pas reconnus. On n'a pas le droit d'aller visiter dans les hôpitaux, par exemple. D'accord? Donc, on n'est pas reconnu. Pourquoi pas? C'est sa réponse. Pourquoi pas les accorder ces avantages? Des communautés bouddhistes en France commencent à bénéficier du statut de congrégation. Il dit d'autres choses et puis il dit, il n'est pas convenable que les croyants musulmans prient dans des caves, des garages. Ils doivent disposer de véritables lieux de prière. À première vue, il n'y a pas d'objection à ce que l'islam ait le même statut que les quatre grands cultes reconnus. C'est pas les baptistes, hein, reconnus les quatre, c'est judaïsme, luthérianisme, catholicisme et calvinisme. Ça, c'est les grands cultes reconnus. Dans la pratique, c'est plus compliqué. Et puis, il parle de ce problème. Alors, pourquoi j'ai abordé ça? Parce que, bon, moi, je suis pas très forte pour les politiques, les questions politiques. Mais s'il y a un sujet dans les politiques qui m'intéresse, c'est la liberté. Hein, c'est là qui m'intéresse. Donc, j'ai pensé important parce que j'ai justement sur cette question de liberté que beaucoup de questions baptistes tournent autour de cette question de liberté. Donc, Jésus, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne viennent au Père que par moi. Jésus, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Donc, je pense que vouloir être un disciple de Jésus-Christ, je veux dire, vouloir être vraiment un disciple de Jésus-Christ, c'est la même chose que dire « je suis baptiste ». Je pense. Hein? Je ne peux pas l'affirmer, parce qu'il y a d'autres personnes, Francis d'Assise, voulaient suivre Jésus, au moins dans un certain point, dans la pauvreté. Donc, c'est pas pour dire que d'autres personnes ne veulent pas suivre Jésus. Mais c'est pour dire que un baptiste va vouloir suivre Jésus entièrement, intégralement, intégralement. Est-ce qu'il y a un risque, si on va parler de la liberté et tout ça, est-ce qu'il y a des risques? Ben oui, quand les gens sont libres, ben il y a des gens qui débordent, et bien ça amène des mauvaises choses. Donc oui, il y a des risques, mais ça c'est la liberté. On ne peut pas avoir la liberté sans avoir des risques. On peut supprimer toutes les libertés et n'avoir aucun risque, mais aucune liberté non plus. Donc je vais écrire quelques lettres ici. J'espère que tout le monde peut voir. B R A P L I S. Alors ces lettres sont une sigle, je pense que c'est le mot sigle, au moins ça représente, c'est pas un vrai mot, c'est les caractéristiques de ce qui est baptiste. Donc si quelqu'un a toutes ces choses-là, c'est un baptiste, s'il s'appelle baptiste ou non. Et quelqu'un qui n'a pas cette caractéristique dans sa foi, dans sa pratique, ben qui s'appelle baptiste ou non, il n'est pas baptiste. Hein, donc, enfin, c'est pas ce qu'on appelle qui est important. C'est pas la dénomination, c'est pas le nom. C'est pas l'étiquette. Mm-hmm. Ce qui compte, c'est ce qu'on est. Mm-hmm. Donc, pour ceux qui sont, c'est peut-être la première fois que vous entendez une chose comme ça, donc, bon, vous écrivez ça sur votre feuille, comme ça vous l'avez écrite, hein. Donc, moi, je vais ajouter, ce que ces lettres représentent. Donc, la première chose, c'est le mot Bible. Chaque chose, c'est le mot régénéré. Régénéré. Troisième, le A, c'est pour autonomie. Le P, c'est pour prêtrise. Ou sacerdoce. C'est bien que j'ai jusqu'à midi 45, n'est-ce pas? Va? Attention pour mon français. Hein? Alors, elle représente liberté. Liberté de conscience. Le I représente immersion. Et le repas du Seigneur. Et le S représente le mot séparation. Entre l'Église et l'État. Séparation entre l'Église et l'État. Il ne faudrait pas penser que ça c'est tout ce que les baptistes croient. Les baptistes sont des chrétiens. Donc il y a tout un arrière-plan religieux, intellectuel, doctrinal, qui va de pair avec ces choses-là. On peut pas renier la Trinité et dire je suis baptiste anti-trinitaire. Ça ne va pas. Parce qu'on n'est plus chrétien si Christ n'est pas le Christ, ben, on n'est rien. Donc, je ne vais pas entrer là, dans tout cela, mais toutes les doctrines chrétiennes, si vous voulez, viennent de ce livre, la Bible, et donc, on ne peut pas dire, je rejette quelque chose qui est dans la Bible, parce que le premier principe, c'est la Bible. Donc, on a ces lettres, B-R-A-P-L-I-S. Et on a, donc, ces sept mots, Bible, régénération, autonomie, prêtrise, liberté, immersion, et séparation. Donc, les grands points sont que la Bible, maintenant c'est vous qui doit écrire parce que j'ai plus de place sur le tableau. La Bible est la seule autorité, et on veut dire par là l'autorité absolue, dans les matières de foi et sa pratique. La Bible est la seule autorité dans le sens absolu, l'autorité absolue, dans les matières de foi et sa pratique. C'est pour ça, comme M. Dollard parlait tout à l'heure, des confessions. Vous ne le savez pas, mais la première confession était faite par les anabaptistes. Avant même que Luther et les autres ont fait leur confession. Mais la confession baptiste était une confession de pratique et non pas de doctrine. Mais nous ne construisons pas notre foi sur les confessions de foi, comme Bernard a dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que l'autorité n'est pas une confession, l'autorité c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Le second mot, ou la lettre R, régénérer, les personnes qui constituent une église ne sont que des personnes régénérées. Les personnes qui constituent une église ne sont que des personnes régénérées. On va revenir sur tous ces détails. Hein. Mais ça veut dire globalement que si une personne n'est pas sauvée, une personne n'est pas régénérée, ce n'est pas, la personne n'est pas née de nouveau, n'est pas un croyant, ben la personne n'a pas droit d'être membre d'une église. Parce que la personne n'est pas chrétienne. La lettre A, autonomie, chaque rassemblement, chaque église, hein, le mot église veut dire rassemblement ou assemblée, chaque rassemblement est autonome. Autonome veut dire s'occupe de ses propres affaires. Chaque rassemblement est autonome. Donc, il est gentil que l'Institut biblique invite les différentes personnes à prendre part dans cette journée. Mais l'Institut biblique n'est pas l'autorité pour les églises locales. Hein? Et les églises locales ne sont pas les autorités pour les autres églises locales. Chaque église ou mission est indépendante et fait comme elle pense correct devant le Seigneur. Autonome. Quand une mission devient une église, ça veut dire que cette mission ne dépend plus des finances et des enseignements d'une personne extérieure, mais elle a pris tout en charge elle-même. Elle est indépendante. La lettre P, prêtrise. La prêtrise ou sacerdoce universelle de chaque et de tout croyant. La prêtrise universelle de chaque et tout croyant. Vous pouvez ouvrir la porte, peut-être. Il y a des gens qui arrivent là. La lettre L, c'est pour le mot liberté, la liberté de conscience. Très important. Ça représente l'individu. Ça, c'est moi. Je peux pas croire ce qu'une autre personne croit. C'est pas possible. Je vais croire pour moi-même. Alors peut-être je vais croire la même chose que croire une autre personne. Mais c'est pas l'autre personne qui va me dire ce que moi je dois croire. Liberté de conscience. La liberté de conscience. La lettre I, immersion. L'immersion et le repas du Seigneur sont les deux ordonnances uniques établies par Jésus et dont tous croyants sont redevables. Est-ce que c'est bon le français là? On est obligé. C'est peut-être pas le mot. Et redevable. Tout croyant est redevable, c'est ça?
Ok.
L'immersion et le repas du Seigneur sont les deux ordonnances uniques établies par Jésus et dont tout croyant est redevable. Et puis la dernière, c'est la lettre S, séparation. La séparation entre n'importe quelle église et l'État. On ne veut pas avoir la séparation entre les églises et l'État, et puis par arrière, on va dire, mais les baptistes vont devenir l'église l'État. Hein? Ouais, non. On est anti-baptiste aussi. On ne veut pas que les baptistes gouvernent l'État non plus. Séparation, la séparation entre n'importe quelle église et l'État. Donc, je voudrais dire que les marques distinctives des baptistes ne sont nullement des traditions inventées par les baptistes. Ce sont les mêmes vérités bibliques que celles qui caractérisaient les églises locales de la période du Nouveau Testament. Les caractéristiques de toute vraie église biblique, en dépit de sa dénomination. Les groupes qui, donc on révise un tout petit peu, les groupes qui pratiquaient la totalité de ces principes distinctifs, se sont vus appelés baptistes. Ils ne sont pas dit, nous sommes les baptistes, ils ont été appelés. Oh, mais regarde, ils baptisent les gens. Pourquoi j'en ai été appelé baptiste? Parce qu'il baptisait. Quand les gens baptisaient, les gens disaient, voilà, il baptise, donc il est un baptiste. Il s'appelait des autres choses, il s'appelait surtout les frères, ou les chrétiens. Mais les autres, pour un mot dérogatoire, ont dit, oh regarde, ils sont des baptistes. Les baptistes ne prétendent pas être les seuls chrétiens. Attention là. Même quand on discutait tout à l'heure le mot protestant, les baptistes ne sont pas les protestants. Ça ne veut pas dire que les protestants ne sont pas chrétiens. Mais peut-être quelques-uns le sont et peut-être quelques-uns ne le sont pas. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont protestants qu'ils sont exclus d'être chrétiens. Hein? Les baptistes ne prétendent pas être les seuls chrétiens. Ils désirent simplement la liberté d'être des chrétiens bibliques. Laisse-nous la liberté de pratiquer comme nous voulons pratiquer. Et je vous assure que entre chaque église baptiste et les autres églises baptistes, il y a des différences. Parce qu'il n'y a pas une autorité au-dessous autrement que la parole de Dieu. Donc, je répète, nous n'ignorons pas l'existence d'autres chrétiens. Attention, hein. Nous n'ignorons pas l'existence d'autres chrétiens. Nous n'ignorons pas que certains d'autres chrétiens acceptent plusieurs de ces principes. Nous ne sommes pas les seuls qui ont ces principes. Nous sommes les seuls qui ont tous les principes. Nous n'ignorons pas que certaines églises... Alors, comment dire ça? Nous n'ignorons pas que certaines églises ne s'appellent pas baptistes, bien qu'elles sont. Et que d'autres églises s'appellent baptistes qui ne le sont pas, qui ne le sont plus, qui ne le sont plus, ou qui ne l'étaient jamais. Donc, par exemple, vous avez... c'est quoi le nom de l'église à Vernon? Église biblique de Vernon. C'est ça?
Oh, église biblique baptiste de Vernon. Et puis tout à l'heure, on dit, ben, on ne veut pas la liberté de conscience. Il faut que c'est obligatoire, tous les chrétiens baptistes bibliques à Vernon portent le chapeau vert, et donc ceux qui ne veulent pas, tant pis pour eux, on va couper la tête. Hein? Donc, elle n'est plus baptiste. Elle n'est plus biblique non plus. Elle n'est plus baptiste. Parce qu'elle a supprimé un des principes. Elle était baptiste jusqu'à ce que elle ne l'était plus. D'accord? Donc, ça arrive que certaines personnes et certains groupes portent le nom baptiste. J'ai reçu une lettre d'un monsieur en Belgique qui a dit qu'il était né baptiste. Et je vous assure qu'il n'était pas baptiste. Il était né de parents baptistes, peut-être. Mais il ne comprenait rien. Donc, il avait un certain héritage baptiste. D'accord. Il n'était pas baptiste. Donc, pour résumer tout ça, je veux dire, nous voulons dire simplement, concernant les autres églises qui sont différentes, peut-être très près, comme Bernard a dit tout à l'heure, ou peut-être très loin de nous, nous voulons simplement dire respectueusement qu'ils ont tort. Ils sont là, ils existent, il y a des vrais croyants là-dedans, comme nous avons aussi des vrais croyants chez nous, eh bien, elles ont tort dans ces choses-là. Hein? Donc, on va reprendre ces choses, une après l'autre. J'ai jusqu'à 12h45, selon le papier, ou...
Si c'est trop long, madame Eugène, moi je n'insiste pas. Vous avez un créneau de temps à utiliser.
Ah, d'accord.
C'est bien.
Ok, d'accord. Non, mais j'ai voulu vérifier. Parce que d'habitude, je prêche 5 minutes et puis on ferme la porte. Non.
Juste pour vous indiquer tout à l'heure, moi c'était 55 minutes. On est différents, là. On a certainement besoin de 55 minutes, hein, on peut s'exprimer comme vous, ça fait bien en 15. Hein.
Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus parlait au diable et il répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je voudrais faire une constatation concernant un peu l'histoire du christianisme ou de chrétienté. C'est que les groupes dits hérétiques, comment dire, j'ai perdu mon français. les groupes dits hérétiques dans l'histoire du christianisme étaient les groupes qui voulaient que tout le monde puisse lire. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient lire la Bible. Les cathares, au moment que le cathare était baptisé, ont donné une portion des Écritures, un livre, probablement le livre de Jean. On disait c'était le Nouveau Testament, mais sachant la taille du Nouveau Testament manuscrit, on pensait plutôt à l'Évangile de Jean. Mais il devait mémoriser ce livre. Et comment est-ce qu'il allait le mémoriser? Il allait le lire. Et il le portait avec lui dans son ceinture. Tandis que chez les catholiques et les orthodoxes, ceux qui lisaient étaient surtout les personnes officielles, dans les politiciens, si ça existait en dehors des gens déjà religieux, ou les autres religieux, ou les moins. Mais beaucoup de prêtres ne lisaient même pas chez les catholiques et les orthodoxes. Donc c'est un point très important. Pourquoi? Parce que pour nous, la Bible, c'est la base de tout. Mais pour eux, ce n'était pas comme ça. Donc pour nous, on voulait chacun lire.
Et il est intéressant que, la civilisation cathare, on disait que la civilisation cathare, à l'époque, c'était la civilisation la plus haute de l'Europe. Chacun pouvait lire. Et on les exterminait. Parce que qu'est-ce qu'ils lisaient? Bon, ils lisaient beaucoup, mais ils lisaient la Bible. C'est la même chose chez les Vaudois. Les Vaudois, ils avaient toute une tête de littérature. Les gens lisaient, on instruisait les enfants à lire. Pas toujours, ils n'étaient pas tous éduqués, mais beaucoup parmi eux étaient éduqués. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient savoir qu'est-ce que Dieu disait dans sa parole. Jésus a dit, comme on l'a lu tout à l'heure, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est donc important qu'on connaisse ce qui est dans la parole de Dieu, parce que c'est de là qu'il vient vraiment la vie. Donc, les baptistes croient à la parole de Dieu. Et les baptistes vont rechercher humblement et longuement à comprendre ces enseignements et de les mettre en pratique. Voilà. C'est comme ça qu'on devient disciple de Jésus-Christ. Quand on met en pratique les enseignements. Alors, Jacques, il a déjà dit, faut pas vous borner à entendre la parole de Dieu. Il faut mettre en pratique. Et il est intéressant que le mot disciple, c'est un mot qui vient des mathématiques. Une personne est un étudiant, c'est-à-dire il apprend les mathématiques et il est fait fonctionner. Il pratique ses mathématiques. Hein, il fait les calculs. On apprend comment faire les calculs et on fait les calculs. Donc c'est le mot être un disciple. On apprend les principes de Jésus et on les met en pratique. C'est ça qui est, c'est comme ça qu'on est un disciple. Donc, la Bible est, elle, la seule autorité pour la foi et sa pratique. La Bible est la parole inspirée de Dieu et elle est donnée par Dieu comme guide de nos vies personnelles et de nos assemblées. L'assemblée n'est pas au-dessous de la parole de Dieu, ni moi en tant que personne, je ne suis pas au-dessous de la parole de Dieu. Il faut que chacun, individuellement et en groupe, en assemblée, nous nous soumettons à la parole de Dieu. En dehors de elle, la religion, c'est-à-dire en dehors de la révélation que Dieu a faite concernant les choses invisibles, n'est-ce pas, quand on parle de l'esprit, eh bien, en dehors de la Bible, la religion n'est qu'un ramassis d'hommes qui tâtonnent dans l'obscurité. Et des fois, on a une personne honnête qui va même le dire. Je suis philosophe, je suis en train de tâtonner dans l'obscurité, de comprendre cette vie ténébreuse, etc. Hein? Quand on revient, on a parlé tout à l'heure de certains groupes, les pentecôtistes, les charismatiques et les baptistes qui sont même devenus charismatiques. Eh bien, ce principe que la Bible est la seule autorité et l'autorité absolue dans les questions de foi et de pratique, bien ce principe démontre la nature illégitime de toute prétendue révélation et manifestation divine soutenant les divers mouvements sectaires. Que ce soit les Mormons, les Témoins de Jéhovah, les Pentecôtistes, même l'Église catholique, prétendent avoir des révélations supérieures ou complémentaires qui vous détourne de la Bible. Hein? Alors, j'ai parlé avec le pasteur pentecôtiste argentin, et lui et sa femme, et j'ai dit, mais vous savez, le parler en langue n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas une chose qui est soutenue. Et on m'a répondu, enfin, c'était madame qui a répondu, ça ne fait aucune différence, nous avons notre expérience. Donc, pour elle, elle a dit comme ça, hein, l'expérience était au-dessus de la parole de Dieu. Donc, ils ne sont pas baptistes. Ils sont pentecôtistes. Et là, ils s'appellent pentecôtistes parce qu'ils ne sont pas baptistes. Je voudrais simplement mentionner, sans vraiment, well, peut-être je le dis tout, hein, mais si on n'a pas la Bible, on n'a pas l'espérance chrétienne. Hein, vous y pensez? L'espérance chrétienne se trouve dans la Bible. C'est quoi l'espérance chrétienne? Je vous le dis. Le pardon non mérité de tout péché. Déjà. Hein, en Jésus-Christ. Grâce à lui. La délivrance du sort angoissant réservé aux non-justifiés. Hein, l'enfer, etc. Hein. Une relation bonne et réelle avec Dieu. Les amis croyants. Son prochain. Et la nature. Hein. Quand on est un chrétien, on a tout ça dans notre espérance. Dans l'espérance chrétienne se trouve l'idée de la réunion de l'âme et de l'esprit auprès du Christ au moment du décès. On oublie souvent toutes ces choses. Oh, mais je suis sauvé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire, beaucoup de personnes. Oui, Jésus m'a pardonné, c'est tout. Non, mais ça va au-delà de ça. On a l'espérance dans la résurrection et la résurrection et la transformation du corps et son réintégration avec l'esprit. On a l'espérance à une participation dans le royaume futur du Christ. On a l'espérance des bénéfices éternels de la vie céleste dans la présence de Dieu. Le prochain mot, lettre R, régénéré. Les personnes qui constituent une église ne sont que des personnes régénérées. Jean chapitre 3. Bon, vous connaissez tous déjà ce que Jésus a dit, je bâtirai mon église, etc. N'est-ce pas? En Matthieu chapitre 16, je bâtirai mon église. Et puis, tout de suite, il commence à parler de l'évangile. Tout de suite, il commence à dire, maintenant, il faut que vous sachiez que je vais à Jérusalem, on va me crucifier et je vais ressusciter. Et donc, Jésus a dit, je vais bâtir mon église. Et dans le même paragraphe, il parle de l'évangile. Donc, je ne sais pas ce que tout le monde pense, parce qu'on peut avoir un peu de divergence dans ce principe-là, dans cette pensée. Mais je comprends, Jésus, il dit, sur moi, sur ce que moi je suis et ce que moi je fais, en tant que Emmanuel, Dieu devenu homme, moi je sauve les hommes, et c'est parmi ces hommes, depuis ces personnes-là qui vont être sauvées, que je bâtirai mon église. Et donc, il a dit en Jean chapitre 3, vous pouvez tourner si vous voulez, Jean chapitre 3, il parlait à Nicodème. Alors, il faut savoir que les Juifs à l'époque de Jésus croyaient que les rites humains, ils étaient comme les catholiques aujourd'hui, les rites humains étaient capables d'effectuer les changements spirituels. Et donc, Nicodème, il s'est présenté devant Jésus, il était bien éduqué, et il avait expérimenté, il avait subi les rites humains, hein, la circoncision. Et il pensait que ça suffisait pour faire le changement nécessaire pour lui rendre agréable à Dieu. Et donc, il s'est présenté à Jésus. En Jean chapitre 3, je ne suis pas encore là. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau. D'ailleurs, Jésus le dit encore dans versets 5, 6 et 7. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, pour celui qui ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il n'est pas sauvé. Il ne peut pas être membre de l'Église. Il n'est pas membre de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Tout simplement. Alors, c'est quoi l'Église? L'Église, c'est le rassemblement, l'ecclésia, ceux qui sont appelés dehors. Dehors de quoi? Dehors du monde. On est né dans le monde. On est né avec la chair, n'est-ce pas? Et bien, quand on est né de nouveau, on est né de l'Esprit. Et donc, on est appelé en dehors de ce monde pour faire partie de notre monde. Le monde de Dieu, si vous voulez. Le monde est spirituel. Laisse voir.
Oui. Donc, la nouvelle naissance, la naissance spirituelle, est le point de départ de tout ce qui est véritablement chrétien. Eh bien, sans celle-ci, sans cette nouvelle naissance, toute religion est sans valeur devant Dieu. Selon le Jésus-là. Il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, on dit, j'ai été baptisé en tant que bébé. Hein? Combien a été baptisé comme bébé ici? Simplement pour savoir. Hein? Ouais. Hein? Le grand parti. Hein? Alors, si la nouvelle naissance, la naissance spirituelle est le point de départ pour tout ce qui est chrétien, qu'est-ce qui compte pour ce qui était auparavant? Qu'est-ce que c'est tout ce qui était auparavant? C'était nul, c'était rien. Hein? Parce que quand on commence au départ, la nouvelle naissance, tout se trouve après, tout se passe après. Et c'est pour ça que le croyant, c'est le point on revient plus tard à la question de baptême, le croyant se fait baptiser. Donc on dit le baptême du croyant, pas le baptême du non-croyant, ce qu'on fait pour le bébé. On fait le baptême du non-croyant. Et même à l'époque de Constantin, on a fait que tous les citoyens romains devaient être baptisés. Parce que être citoyen romain était devenu identique que de dire « je suis chrétien ». Mais pour être chrétien, il fallait être mouillé. Donc, on a mouillé toutes les foules de non-croyants. Mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Donc, ils n'étaient pas chrétiens. Bien qu'ils s'appelaient chrétiens. Juste comme un baptiste, une personne peut s'appeler baptiste sans être baptiste. Il faudrait mentionner dans ce contexte de l'Église que, c'est-à-dire que les personnes qui constituent une Église ne sont que des personnes régénérées. Il faut constater aussi que Jésus-Christ est à lui seul le chef des croyants. Hein? C'est dans ce contexte-là que ça vient. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut dire, mais... Je ne termine pas dans 5 minutes. La lettre A, c'est l'autonomie. Chaque rassemblement, chaque église est autonome. Quelqu'un voudrait chercher peut-être Actes chapitre 15, verset 28 à 31. Qui voudrait chercher ça pour moi? Ok, le monsieur là-bas. Actes chapitre 15, verset 28 à 31. Philémon, chapitre 8, Philémon, verset 8 et 9. Qui voudrait lire ça? Ok, Philémon, verset 8 et 9. Apocalypse, chapitre 1, verset 11. Robert. Autonomie de l'église locale. On va commencer avec Apocalypse, chapitre 1, verset 11. Vas-y.
Il disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée.
D'accord. Donc il dit aux 7 églises, il reconnaît que chaque église est indépendante. Chaque église est une totalité indépendante. Et dans le mouvement écuménique, c'est intéressant, l'Église catholique reconnaît que les églises différentes existent maintenant. Avant, c'était la seule Église catholique, et maintenant, elle reconnaît que, oh, tiens, il y a d'autres églises autour de nous. C'est curieux, n'est-ce pas? Mais, bon, revenons à la Bible, Jean dit, enfin, c'est Jésus qui dit à Jean qu'il doit écrire, vous comprenez, il devait écrire 7 exemplaires manuscrits de l'Apocalypse. Ah, ça devait prendre du temps, hein? Parce que chaque église devait recevoir son exemplaire. Philémon, versets 8 et 9.
C'est pourquoi, bien que j'ai appris ce qui est versé de ta vie, ce qui est convenable, je te préfère selon de l'amour que je t'adresse en prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ.
Donc, il avait la liberté de prescrire quelque chose. Comme moi, en tant que missionnaire, des fois, je pourrais dire, écoute, vous ne comprenez rien, on va faire comme ça. On pourrait dire ça. Mais, il dit, c'est de préférence Hein, on se met au même niveau. Même je te mets un peu plus haut que moi. C'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Mais pourquoi pas faire comme ça? C'est peut-être mieux. Et laisser la personne réfléchir et comprendre que oui, mais pourquoi pas? Parce que si je le dis d'une façon autoritaire, eh bien, eux, ils n'arrivent jamais à comprendre rien. Ah ben, c'est comme ça, Billy dit, il faut faire ça, donc il faut faire ça. Il faut faire comme ça. Pourquoi? Ben, je sais pas, Billy a dit, il faut faire ça. C'est Billy l'autorité. Ben non. Je trouve très important les paroles de Paul dans cette phrase. Hein? C'est la liberté, mais c'est non pas seulement qu'il avait pour, en tant qu'apôtre, faire quelque chose, mais il n'a pas fait. Il a donné, enfin, la liberté à l'autre personne de comprendre comment faire, et il n'a pas même dit, vous devez le faire. Il dit, j'espère bien que vous allez le faire. Actes chapitre 15, verset 28.
Car il a pas plus bon à l'esprit et à nous de nous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de nous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de la débauche, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. Deux noms, ayant pu congé de l'église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée, après avoir lu les fêtes que réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait.
Vous n'avez pas eu le mot adieu dans votre texte, hein? Vous n'avez pas dit?
Bon.
Bon, moi, j'ai souligné ce mot-là. Parce qu'ils disent, donc il y avait ce premier concile à Jérusalem, ils ont rassemblé là, ils ont discuté ensemble, n'est-ce pas? Et puis, à la fin, c'est pas du tout Pierre que l'Église catholique dit qui était le pasteur à Jérusalem, parce qu'il n'était pas. Qui était le pasteur à Jérusalem? C'était Jacques. Alors Jacques se met debout, il dit, bon, on a entendu tout ce que tout le monde a dit, maintenant on va faire une décision. Et c'est Jacques qui le fait pour tout le monde. Et Jacques, il dit, quelqu'un qui va écrire ça, il semble bon au Saint-Esprit et à nous. Et puis il dit leur avis. Et puis il ne dit pas, eh bien on va venir voir si vous avez suivi notre conseil. Ou notre commandement, il dit, adieu. On va pas vous revoir sur ce détail. On vous laisse la liberté à la faire. Adieu. Oui, il fallait lire la mort. Et puis, quand ils ont reçu la lettre, ils n'ont pas reçu la lettre comme un commandement, ils l'ont reçu comme un encouragement. C'est le mot qui est là. Comme un encouragement. Donc, il est vrai que des fois, en tant que missionnaire, je ne connais pas tous les comment faire. Ah, je demande à une autre personne, je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Et une autre personne dit, il me semble que tu peux faire ceci ou que tu as le droit de faire cela. Comme le repas du Seigneur, je ne savais pas. On n'est pas vraiment une église, on est une mission, on est quelques croyants. J'ai écrit à mon pasteur aux États-Unis, mais qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on doit on doit faire le repas du Seigneur ou non? Et puis il a répondu, c'est il pensait que, à son avis, que, oui, j'étais commissionné par l'église de San Francisco, donc dans un sens, pourquoi pas? Ah, donc on a commencé. Pas parce qu'il a dit, il faut le faire, Billy. Et moi, j'ai pas reçu comme un commandement non plus, mais comme un avis. Et j'ai pensé raisonnable son avis, donc on a commencé. Comme ça. Donc ça veut dire, c'est l'autonomie. Hein? Chaque église décide pour elle-même. Pour qui est l'église? Ben, l'église, c'est les régénérés, les croyants. Non, c'est pas le pasteur, désolé. Dans beaucoup d'églises baptistes, l'église, c'est le pasteur. Mais attention, parce que là, quand on dit que le pasteur, c'est l'église, on est au christianisme du second siècle, et non pas au christianisme du premier siècle. Attention. Pourquoi les baptistes bibliques, hein? Pourquoi rejette-t-il le gouvernement ecclésiastique de Rome? Parce que, donc c'est toujours dans le sens d'autonomie. Alors si on se met sous l'autorité de Rome, on n'est plus autonome. Hein, on est dépendant, n'est-ce pas? Mais c'est aussi parce que, vous voyez, déjà j'ai dit, le premier pasteur à Jérusalem, qui est-ce? Qui c'était? C'était Jacques. Hein, Jacques, le frère de Jésus. C'était pas
Pierre. D'accord? Mais aussi parce que dans le verset que j'avais discuté tout à l'heure, j'avais donné tout à l'heure, je bâtirai mon église. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Eh bien, l'église catholique dit que c'est Pierre. Tandis que ce n'était pas Pierre. Mais qui c'était? Donc, dans l'Ancien Testament, l'Éternel est le rocher. Qui est l'Éternel? L'Éternel, c'est Emmanuel. N'est-ce pas? Dieu, c'est Dieu, n'est-ce pas? On n'a pas un problème là. Mais quand Dieu s'est fait homme, comment s'appelait-il? Jésus-Christ. D'accord? Donc, quand on parle de l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 32, 2 Samuel chapitre 22, Psaume chapitre 18, Psaume chapitre 62, Psaume chapitre 92, verset 16, le rocher, c'est l'Éternel. Et quand on vient au Nouveau Testament, le Christ incarné est le rocher. Je vous donne un seul verset. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 à 8. Enfin, j'ai plusieurs, mais vous devez me demander plus tard, parce qu'autrement, on n'a plus de temps. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 à 8. Pierre, que l'Église catholique dit était le roc, eh bien, Pierre dit c'est Christ qui est le roc. C'est intéressant. Alors, si on va obéir à Pierre, ben, Pierre a dit que c'est Christ qui est le roc. Alors, la chose, c'est que quand une personne ou une église accepte de se soumettre au gouvernement ecclésiastique de Rome, eh bien, elle transgresse la parole de Jésus, elle se détourne sa loyauté du Christ. Hein? Du Christ vers telle ou telle église. N'est-ce pas? Donc c'est pour ça qu'on rejette les autorités ecclésiastiques. Hein? Je ne sais pas si j'ai lu tout là, sans voir. Bon, résumé. La Bible enseigne que la seule autorité ecclésiastique de notre temps est l'église locale. Voilà. Matthieu chapitre 18. Verset 15 à 17. Si vous avez un problème avec quelqu'un, vous allez le voir indépendamment. S'il ne vous écoute pas, vous allez avec un témoin pour que tous les deux puissent organiser ça pour arranger le problème. Et s'il ne vous écoute pas, vous allez à l'église. Et s'il n'écoute pas l'église, c'est fini. Il n'y a pas une autre autorité plus haut. Donc, vous le rejetez, la personne qui est désobéissante. La lettre P, c'est la prêtrise, la sacerdoce universelle de tout croyant. Quelqu'un voudrait chercher 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 11. Bon, seulement la première partie de verset 11. Hein. Qui veut chercher ça? Colette. 1 Pierre chapitre 2, verset 9, jusqu'à la première partie de verset 11. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 22. 1 Timothée chapitre 2. David Mumford. 1 Timothée chapitre 2, verset 5 et 6. Donc, on commence avec 1 Pierre chapitre 2. Arrête. Là. On s'arrête là. Comme étranger et voyageur sur la terre. D'accord? Donc là, on voit bien qu'il y a un sacerdoce, mais c'est un sacerdoce de tous. Il n'y a pas un office ou une position spéciale de prêtrise dans le christianisme. D'ailleurs, tout livre d'Hébreux, tout ce qui est écrit dans l'Hébreux, livre aux Hébreux, c'était pour expliquer qu'il n'y avait plus de sacerdoce. Autrement que ce concept que tous ont accès à Dieu. Hein? Aussi, donc on a coupé la phrase là, où il disait,
Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre. C'est dans le même paragraphe, là, c'est, parce que vous savez bien, dans le grec original, il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a rien. Donc c'est dans la même chose, là, qu'on parle d'un sacerdoce, on parle d'un pèlerinage. Hein? Alors, ça, c'est très important. Et il y a... On va lire les autres versets, puis on va revenir sur ce concept. Donc, qui va lire le second verset, oui? Donc, c'est Hébreux, chapitre 10, verset 9 à, 19 à 22. 19 à 22. Qui est le souverain sacrificateur? Vous ne le savez pas? Ah, c'est Jésus. OK. Mais il dit que nous avons le droit maintenant à entrer dans le sanctuaire. Mais qui est-ce qui entre dans le sanctuaire? Dans l'Ancien Testament, qui est-ce qui entre dans le sanctuaire? Dans le Saint des Saints, c'est que le souverain sacrificateur. Mais dans le sanctuaire, c'était tous les prêtres pouvaient entrer, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'ils pouvaient entrer sales? Est-ce qu'ils pouvaient entrer impurs? Est-ce qu'ils pouvaient entrer avec des, comment dire, avec des déformités? Est-ce qu'ils pouvaient entrer comme ça? Ils pouvaient pas. Ils pouvaient pas. Donc, ce que je veux souligner, c'est quand on parle d'une prêtrise, d'un sacerdoce universel. Hein, parce que nous avons oublié ça, je pense, hein, dans la plupart de chez nous. Eh bien, on parle là de la pureté de vie. On peut pas entrer devant Dieu étant tout rempli de péchés. Il faudrait admettre à Dieu nos péchés. Et c'est ça que... Et c'est, bon, je reviens là-dessus. Il faut lire l'autre passage. Qui a l'autre verset? J'ai oublié. Ah oui.
Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ l'homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre nom.
D'accord. Donc il n'y a que le Christ qui est vraiment le médiateur entre l'homme, les hommes et Dieu. Jésus-Christ qui s'est fait homme. Donc Emmanuel, n'est-ce pas? Alors, l'idée d'une prêtrise universelle, veut dire, premièrement, c'est l'idée, c'est une religion à responsabilité individuelle. Hein. En France, on a les assurances à responsabilité individuelle, n'est-ce pas? Eh bien, la religion chrétienne, c'est une religion à responsabilité individuelle. On est chacun responsable devant Dieu. On a déjà parlé de ça tout à l'heure. Je crois Bernard parlait de ça. C'est la compétence de l'individu. On a le droit, on a la capacité, on a le devoir. Vous voyez? Ça revient à toute cette idée-là. Là, on ne parle plus de l'autonomie de l'Église, l'indépendance de l'Église, on parle de l'indépendance de l'individu, de la personne. Et le pouvoir, la force des Huguenots, c'était là, dans ce principe-là. Eux, ils ne faisaient pas autant les réunions de l'Église, parce que les réunions de l'Église, c'était illégal. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient la réunion en famille. Et le papa était capable de diriger la famille dans la prière, dans la lecture de la Bible, d'expliquer, etc. C'est ça qu'on peut faire. Vous voyez? Alors, en allant plus loin, en revenant à cette idée d'être étranger et voyageur sur la terre, donc l'idée d'être un pèlerin, eh bien... ça parle de la séparation individuelle. Hein? C'est pas cette séparation-là entre l'Église et l'État. Je parle de séparation de moi. Je suis dans le monde, mais je dois pas être du monde. Vous voyez? J'ai une voiture, mais j'ai pas de Mercedes. Bon, peut-être si j'avais l'argent, j'aurais aussi une Mercedes, mais... on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. On ne suit pas la pensée du monde, on ne suit pas les pratiques du monde. D'ailleurs, ce qui doit caractériser notre vie, je vais vous donner une liste. Et cette liste n'est pas complète. Mais ça, c'est seulement le début, vous pouvez le remplir. Je ne vais pas
vous allez attraper un autre dans la liste. Hein. Notre vie doit être caractérisée par la vérité, le pardon, l'ordre, la générosité, le respect de son prochain, la recherche des œuvres de bienfaisance, la gentillesse, la foi, la justice, l'honnêteté, la joie, la bonté, la paix, la patience, la fidélité. Vous les reconnaissez, n'est-ce pas, les fruits de l'esprit? La douceur, la tempérance, l'amour, l'humilité, le service d'autrui, la reconnaissance, la pureté, et puis la liste, on dit qu'il y a 60 dans la liste. Hein? Moi, j'ai seulement trouvé 22 jusqu'à là. Mais c'est là, un prêtre, hein? Dans notre sacerdoce, notre ministère. On doit être comme ça. Alors, quand on trouve un chrétien, que ce soit un pasteur ou que ce soit un chrétien de tous les jours, parce que de toute façon, on est égal, n'est-ce pas? Eh bien, on trouve un chrétien qui est médisant et méchant et pécuniaire, c'est pas le mot, je pense, n'est-ce pas? Matérialiste. Quel genre de chrétien est-ce? Ça, c'est rien, ça. C'est pas intéressant. Hein? Donc, attention que nous soyons des chrétiens responsables. Vous voyez, il passe toute une feuille, là. Alors, elle, pour liberté, la liberté de conscience. Ça, c'est important. Qui voudrait lire encore? Qui voudrait lire? Guillaume, Ésaïe, chapitre 1, verset 18 à 20. Qui autre? J'ai trois encore. Robert, Jean, chapitre 3, verset 14 à 18. Monsieur Huffman, Apocalypse, chapitre 22, verset 10 à 17. Guillaume, Ésaïe, chapitre 1, verset 18 à 20. Chapitre 18 à 20. Ok, donc venez et plaidons, donc raisonnons ensemble. Eh bien, si vous n'êtes, c'est Dieu qui parle, c'est pas moi, hein, c'est pas une église, c'est Dieu qui dit, si vous n'êtes pas, si vous ne convertissez pas, ben vous serez dévorés. Ok. Jean chapitre 3, verset 14 à 18.
Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
Donc là, il dit, globalement, il dit, croire en Jésus-Christ, ou bien, vous périrez déjà. Hein? Et donc, dans le désert, il y a déjà les gens qui sont en train de mourir par les mordures de ces serpents venimeux. C'est venimeux, oui. Et donc, c'est que ceux qui voulaient être sauvés, qui voulaient lever les yeux vers le serpent en Eren, c'est que eux qui ont été sauvés. Que ces personnes-là. Donc, on voit bien qu'il y avait une liberté de conscience. Ceux qui voulaient mourir, ils les laissaient mourir. Ils étaient déjà en train de mourir. Mais ceux qui voulaient vivre, ils avaient le droit à vivre. Ils avaient tous le droit à vivre. Mais ils les laissaient mourir s'ils voulaient mourir aussi. Hein. Dieu est très fort sur ce principe de liberté de conscience. C'est personne d'autre dans ce monde qui va répondre pour vous. Chacun, chacune va répondre à Dieu pour soi-même. Et qui, c'est M. Hoffman, Apocalypse 22, verset 10 à 17.
10 à 17?
Oui.
Et il me dit, ne cède point les paroles de la prophétie qui se livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les abusifs, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'église. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent bien, et que celui qui entend dise bien, et que celui qui a soif vienne, que celui qui vient prenne de l'eau, de la vie gratuitement.
D'accord, donc on a l'idée au début que chacun selon sa volonté soit justifié, soit condamné, mais chacun selon sa volonté, et puis à la fin il dit que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Que celui qui veut, il est là, disponible à tous, mais Dieu n'oblige personne. Il laisse à chacun la liberté. Donc le christianisme doit enseigner, parce que beaucoup de soi-disant chrétiens qui ne l'enseignent pas, mais le christianisme doit enseigner le respect et la tolérance. Hein? Aimez, Jésus a dit, aimez votre prochain et priez pour votre ennemi. Hein? On doit aimer son ennemi aussi. Donc on a l'idée encore de l'autonomie de l'individu, le droit, responsabilité. Vous savez, il y avait un temps que Jésus marchait avec ses disciples, il allait à Jérusalem et devait passer à travers Samarie. Et donc ils allaient, c'est Luc chapitre 9, et ils allaient passer, donc il envoyait quelques disciples avant pour trouver une auberge. Et quand ils sont arrivés là, il dit, du fait qu'il allait passer et aller à Jérusalem, les gens ont dit non. Alors les disciples, Jean et Jacques, demande, veux-tu que nous commandions le feu, que le feu descende du ciel et les consume? Ils étaient vraiment des bons baptistes, hein? Oh là là! Eh bien, Jésus a répondu, donc il dit autre chose, il dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Alors là, j'ai pensé longtemps qu'il voulait dire que vous devez être animé du Saint-Esprit et donc vous ne devez pas demander de telles choses. Mais en réfléchissant, il dit pas ça. Hein? Il dit, vous êtes animé d'un esprit que vous ne connaissez pas ce que c'est. Et qui est celui qui veut détruire? Hein? Ah ben oui. Alors, qui, comme le diable avait mis dans la pensée de Pierre, que le Christ ne devait pas être crucifié? Hein? Parce que tout de suite après que Jésus... Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Christ, le Fils de Dieu. Et puis Jésus dit, oui, c'est vrai, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et puis Jésus parle de l'évangile, et puis quand Jésus dit qu'il va mourir et ressusciter, Pierre dit, ah ben non, loin de toi, ça ne peut pas aller. Et puis Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Hein? Ah ben, quel esprit animait Pierre là? C'était le diable. Et quel esprit animait Jean et Jacques là? C'était le destructeur, n'est-ce pas? Il voulait détruire les gens. Et donc Jésus a dit, dans le même contexte, il dit que ce n'est pas pour faire périr, mais c'est pour sauver que je suis venu, n'est-ce pas? Donc les baptistes croient à la liberté de conscience. Ce n'est jamais pour le baptiste à prendre les armes pour détruire. Hein? Je parle de contexte de la religion. Hein? Il se pose comme axiome du fait qu'on croit à la liberté de conscience qu'ils ne pourront, les baptistes ne pourront jamais faire partie des mouvements intégristes. Car au fond, l'intégrisme est une tentative d'étouffer la liberté individuelle au nom de la conformité. Donc, nous croyons au droit de la non-conformité. nous croyons au droit de la liberté. Et l'intégrisme empêche la recherche individuelle. Hein? Donc, répétez que le Christ enseigne le respect et l'amour aussi bien envers le prochain qu'envers l'ennemi. Je vais sauter sur celui-là. C'était quand même intéressant. Je vais vous dire, mais je vais pas le lire. Dans les colonies aux États-Unis, avant que c'était les États-Unis, eh bien, c'était les gens qui cherchaient la liberté, qui se sont installés là-bas avec leur liberté, et quand les autres gens étaient non conformistes, qu'est-ce qu'on a fait? On les a persécutés, on a même tué. C'était la coutume à l'époque, hein, de tuer les non conformistes. Donc, attention, les baptistes ne croient pas à la liberté à eux. Les baptistes croient à la liberté pour tous. Et ils disent que quand Roger Williams a démarré la colonie de Rhode Island, que en fait, du fait qu'il donnait la liberté à soi-même, et aux protestants, et aux catholiques, et aux turcs, eh bien, ça causait des problèmes au début, parce qu'on ne savait pas, dans le contexte que tout le monde était toujours géré par une autre religion, mais comment vivre, étant indépendant, n'est-ce pas? D'avoir la liberté de conscience. Ça a causé quelques problèmes au début. Donc, j'ai qu'une minute qui me reste. Alors, pour le baptême, je vais dire simplement, c'est par immersion. Et donc, le repas du Seigneur, l'immersion et le repas du Seigneur sont les deux ordonnances uniques établies par Jésus, et donc tout croyant est redevable. Donc, le baptême est immersion. C'est pas quelle forme de baptême. Le baptême est immersion. Donc attention là, on immerge au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors je donne quelle autorité? Alors je vais présenter un tout petit peu, mais je vais lire une phrase. On l'appelle baptême. Baptisé en grec, baptisein, signifie plonger, immerger. Qui est-ce qui a dit ça? Ben, c'est Jean-Paul II. Alors, je demande, mais pourquoi? J'ai demandé ça à ma femme hier. Pourquoi? Parce que vous savez, quand je ne peux pas trouver quelque chose, moi aussi, je demande à ma femme de le trouver. Alors, j'ai dit, mais pourquoi? Si le pape dit que le mot baptise, veut dire immerger, ben pourquoi ne baptise pas? Pourquoi n'immerge pas? Ben, par facilité. On ne veut pas se mouiller. Mais attention à vous, hein, parce que je sais qu'en France, la pratique de baptême n'est pas d'être mouillé. Hein, parce que dans la Bible, tous les deux sont entrés dans l'eau. Et nous avons le coutume, chez les baptistes en France, que le baptisé soit mouillé, mais que le pasteur ou le baptiseur n'est pas mouillé. Attention! Parce que là, on revient encore au christianisme du second siècle. Quand il n'y a pas de l'eau, on peut verser trois fois sur la tête. Ça représente l'eau qui est vivante, n'est-ce pas? Mais pourquoi pas? Si on va pas suivre la Bible, on va pas suivre la Bible. Oh, là, attention, Billy. Hein? Non, mais il faut réfléchir. Si on va suivre la Bible, on va suivre la Bible. Bon, je suis pas contre les baptistères. J'étais baptisé dans un baptistère, mais quelqu'un était là avec moi. On était tous les deux mouillés. Il est intéressant aussi concernant le baptême. Je vais lire un petit mot de... Oui, mais je vais m'arrêter. Oui, il regarde là et puis il fait... Ça vient des notes de cours d'histoire, hein, de l'Institut biblique. De même, Christian, c'est un auteur là, fait remarquer fort à propos du baptême, que la forme du baptême, par immersion, s'était maintenue dans l'Église catholique à travers tout le Moyen-Âge, et je vous dis, à Pise, jusqu'au XVIe siècle, dans le baptistère, hein? Mais qu'elle avait été défendue ou préconisée par les grands docteurs médiévaux de cette Église. Par contre, il dit que Pierre Lombard, qui est mort en 1164, déclarait l'immersion comme étant la forme correcte du baptême dans le 12e siècle. Hein? Thomas d'Aquin. Donc c'est lui qui a forgé la théologie catholique, son manteau de théologica. Il mentionne le baptême par immersion comme le pratique courant de son temps et le préfère comme le plus sûr pour sauver, n'est-ce pas? De même, Bonaventure et Dun Scott. Ils croyaient tous que la pratique devait être le baptême par immersion à cette époque-là. L'historien français Mézaret, dans Histoire de France, il parle de la forme catholique du baptême et écrivit « Pour le baptême du 12e siècle, il plongeait le candidat dans les fonds sacrés pour montrer quelle opération ce sacrement avait sur l'âme. » Eberhard et Ermengarde, dans leur œuvre contre Valdensis, contre les Vaudois, vers la fin du 12e siècle, mentionne le baptême par immersion chez les Vaudois. Et j'ai lu moi-même dans le livre Vaudois que ils ont arrêté d'immerger que les croyants pour devenir réformés. Hein? Parce que les critiques étaient qu'ils ne baptisaient pas les bébés. Et toute la littérature était basée sur ce principe de ne pas baptiser les bébés. Mais pour se joindre à la réforme, les Vaudois, donc les églises Vaudois qui encore existent aujourd'hui, eh bien, ils commençaient à baptiser les bébés. Dommage. Le repas du Seigneur, c'est sur les deux espèces. Même l'église catholique dit, on peut le faire sur les deux espèces, mais j'étais déjà à plusieurs messes d'enterrement, de mariage, etc. J'ai pas encore vu la communion à deux espèces, même si on dit qu'on a le droit maintenant. Et pour terminer, la séparation entre l'Église et l'État, n'est-ce pas? Trois versets qui vous recherchez, s'il vous plaît. Matthieu 22, versets 16 à 21. Romains chapitre 13, verset... on va dire 1 à 8. C'est long, hein? Et puis, un dernier verset, Robert, Matthieu 26, 52. Donc, ce que Samuel va lire, on voit la distinction entre l'Église et l'État. Ce que, comment t'appelles-tu? Vavita va lire le rapport entre l'Église et l'État. La relation. Et Robert va lire l'interdiction de défendre la religion, interdiction de défendre, pour se défendre dans la religion, avec les armes. Hein? Ok, donc, tu veux lire, Samuel?
Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'ils t'en semblent, est-il permis ou non de payer le tribut à César ? » Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me sentez-vous hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle leur paient le tribut, et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ? » ?»« De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »
Donc Jésus reconnaît que certaines choses sont à César, et que certaines choses sont à Dieu, et il faut respecter l'un comme l'autre. Ok, Romains, chapitre 13, verset 1 à 8, et notez qu'on entre, dans un verset là qui est souvent mal utilisé, mais vas-y, tu vas lire le passage.
Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Et si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'une porte l'idée, et ton serviteur de Dieu peut exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être puni, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc, vous ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a compris la terre.
Donc on a les devoirs. On a les devoirs, et le chrétien doit faire ses devoirs. Il doit quitter ses devoirs. Et c'est ça le verset 8. Ne devez rien à personne sauf de les aimer. Donc il faudrait, si vous remboursez un prêt pour une maison, il faut rembourser. Il faut quitter vos dettes. Il faut le faire. Mais on ne peut jamais terminer à remplir les dettes d'amour. Ça reste toujours là, toujours obligé, toujours continue. Mais là, il dit que le gouvernement est là. Le magistrat est le ministre de Dieu. Donc, il faut payer vos impôts. Et quand on critiquait les Vaudois, on disait, oh, mais c'est bête, c'était vraiment, c'était inutile, parce que quand il y avait des guerres et ils pouvaient pas payer leurs impôts, ils ramassaient leur argent ensemble et le mettaient de côté pour pouvoir payer aux premières opportunités. Les fous. Parce que, ils avaient un devoir et ils allaient quitter le devoir. Une minute. Donc le dernier verset. Robert.
Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée.
Non, non, c'est bon. Donc, Jésus, dans le contexte, il dit qu'il avait à sa portée 12 légions d'anges. Alors, un seul ange pourrait massacrer tous les soldats qui étaient là. Il avait 12 000 anges à sa disposition pour le protéger. Vous imaginez ça? Il avait pour battre toutes les forces romaines. D'ailleurs, les Juifs voulaient qu'il le fasse. Hein, les Juifs voulaient que le Christ établisse son royaume tout de suite. Et il avait pour le faire avec 12 000 anges, je pense. Hein? Mais il l'a pas fait. Il avait le pouvoir de le faire. Et il a dit, tu mets ton épée là, ça c'est pour te protéger contre les brigands et les criminels. Mais là, c'est une question de religion. Et moi, je vais être crucifié. Si tu me protèges, je peux pas être crucifié. Et nous, on dit, bah, tiens, si on ne se protège pas, on va nous tuer. On ne veut pas ça. Mais le Christ ne voulait pas être tué non plus, mais il devait être tué. On dit donc, que faire? Ben, si c'est une question de religion, on remet l'épée là où il doit être. Mais si c'est une question de crime, c'est une autre chose. Hein? Il y a un côté de loi, comme monsieur a dit, il y a les lois pour protéger les gens. S'il y a un secte qui fait des mauvaises choses, alors il faut les punir. Ils sont des criminels. Vous comprenez? Il comprend. Et ce auteur-là, dans cet acamédicien, il comprend bien le problème. Il y a des choses qui sont du gouvernement. Il y a des choses qui sont de religion. Et quand ça vient à la question de religion, eh ben, il faudrait pas se protéger. Si Dieu veut, il vous protégera. Si Dieu ne veut pas, il ne fera pas. Là, il faut voir. Quand Paul était en prison, est-ce qu'il pleurait? Ah, il était persécuté quand même, il était battu. Mais non, il chantait. Oh là, mais fou. Ah oui, il était baptiste. Donc, séparation entre l'Église et l'État. On a vu dans le Matthieu 22 qu'il y a une distinction entre les deux. Il faut garder la distinction. Il ne faut pas faire les lois anti-sectes. Faut pas faire les lois pour favoriser une religion ou une autre. Eh bien, je vous pose une question.
une église musulmane, une église protestante, une église baptiste, doit-elle recevoir des subventions de l'État en France, parce qu'en France, le gouvernement est toujours prêt à débourser de l'argent? Qu'est-ce que vous en pensez? Je connais une église baptiste qui reçoit les subventions de l'État. Attention! C'est pas bien. Faudrait pas. Vous savez, si les catholiques croyaient à leur religion, c'est eux qui devraient maintenir leur bâtiment. Si les protestants croient à leur religion, c'est eux qui devraient maintenir leur bâtiment. On a à Argentan, on a une petite belle église réformée, belle, parce que c'est l'État qui vient de le restaurer. À Flair, il me semble qu'il y a un temple là aussi, qui vient d'être refait par l'État. Mais pourquoi les protestants ne peuvent pas payer le frais? Nous pouvons. Hein? Mais vous savez, c'est différent parce que les baptistes croient à ce qu'ils croient. Hein? Et donc, ils débouchent beaucoup. Hein, moi, je ne donne pas beaucoup hein, d'argent. Moi, je dépense beaucoup d'argent, mais je ne donne pas beaucoup d'argent. Mais j'ai lu une chose récemment. Il dit qu'aux États-Unis, le foyer, dans un foyer, on donne globalement $20 par année dans une église. 100 francs par année. Et je vous dis que je donne plus que ça par semaine. Dans mon propre dîme. Pourquoi? Ben parce que je crois à ce que je crois. Et ben, je sais pas, le problème, je comprends pas. Donc, il y a une séparation entre l'Église et l'État. Ce n'est pas pour l'État de nous dire comment croire, que croire, comment faire, que faire. Où le faire. C'est pas pour nous à dire au gouvernement qui sont les religions qui sont acceptables ou pas, etc. Je vais m'arrêter là parce que ça devient un peu compliqué. Donc, je souhaite que ces choses vous ont aidé. Vous savez, il faut toujours se souvenir qu'il y a, quand on fait une chose comme ça, il y a toujours un arrière-plan historique. Hein? Et je fais ça un peu en conclusion. À l'époque, qu'on commençait à définir qu'est-ce que c'était un baptiste, c'est parce qu'on les mettait à mort, les baptistes. Les baptistes étaient les rebelles. Ils ne voulaient pas baptiser le bébé. Et donc, les baptistes, je ne vais pas dire tout ça, mais ils ne baptisaient pas le bébé, donc le bébé ne faisait pas partie de la société chrétienne. Ils étaient vus comme les gens terribles. Et puis, comme il a parlé de Félix Mans, etc., tout à l'heure, ils se faisaient rebaptiser, donc ça voulait dire qu'ils rejetaient leur citoyenneté. Mais ils n'étaient pas rebaptisés, ils n'étaient jamais baptisés, ils étaient mouillés, ils avaient pris beaucoup de douches dans leur vie. Mais là, ils étaient devenus des croyants. Et donc, ils se sont fait baptiser le baptême de croyants. L'immersion de croyants. D'ailleurs, beaucoup d'eux ne savaient même pas c'était l'immersion. Dans le 16e siècle. Donc, je souhaite que ça vous aide. Je peux vous faire voir les choses si vous voulez. Que Dieu vous bénisse, que vous aide à comprendre les choses.